Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Léniaud, que l'on ne présente plus pour les amateurs de podcast. Pauline est cofondatrice avec son mari d'une marque de joaillerie, Gemio. Et en plus de son rôle chez Gemio, elle a créé un podcast qui s'appelle Le Gratin, conversation avec le succès. Plus récemment, elle a développé des activités de coaching à destination des dirigeants. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Pauline, que je suivais depuis des années, à l'époque déjà de la crème de la crème. À l'occasion de cette rencontre, j'ai découvert que Pauline était passionnée par tout un tas de sujets, notamment tout ce qui touche au management RH et à l'innovation. Et c'est pourquoi j'ai décidé de la faire participer à cet épisode. Avec Pauline, on a parlé de son parcours, de ce qui l'a amené à créer Gemio. Pauline nous explique comment elle a bâti cette équipe de confiance avec laquelle elle collabore, composée de personnalités très diverses qui sont une force aujourd'hui. Elle parle des difficultés qu'elle a eues à amener les collaborateurs du début de l'aventure, des profils plutôt polyvalents et touche-à-tout, vers plus de spécialisation lorsque l'entreprise a grandi. Et elle décrit cette phase délicate où il a fallu structurer et organiser davantage l'équipe. Pauline nous a livré de façon très concrète des conseils de recrutement qu'elle applique chez Gemio, qu'elle a élaborés au fil des années pour s'assurer de recruter des personnes de confiance. Bref, une sorte de manuel du recrutement réussi qu'elle a eu la gentillesse de bien vouloir nous livrer dans le détail. Pauline nous a ensuite donné ses secrets pour motiver ses équipes et les fidéliser en expliquant comment elle les implique au quotidien, notamment sur les recrutements qui sont des décisions collégiales ou encore en permettant à certains d'évoluer sur des postes stratégiques. Elle nous explique aussi la méthode du DISC, une méthode qui permet de faire cohabiter des personnalités différentes, une méthode auquel elle croit et qu'elle exploite pour optimiser davantage l'avancement de certains de ses projets. Pauline revient enfin sur des décisions de management difficiles qu'elle a eu à traverser et dont elle a tiré une expérience et elle raconte comment elle essaye aujourd'hui de responsabiliser ses collaborateurs lorsqu'un conflit survient. J'espère que cet épisode vous sera utile. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à faire connaître plus largement ce podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour Maïla.
Bienvenue sur Droit Devant.
Merci.
Je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur ce podcast. Je sais que tu as un agenda bien rempli, donc merci de prendre le temps de m'accueillir chez toi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Alors Pauline, tu es passionnée de management RH et d'innovation. Ce sont des sujets que tu abordes très régulièrement dans ton podcast Le Gratin. Et en tant que chef d'entreprise, évidemment, tu recrutes et tu manages des équipes. J'avais envie d'échanger avec toi sur cet exercice auquel tu te livres au quotidien. Mais avant d'aborder plus en détail ces sujets que tu affectionnes, je voulais qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'aventure Gemio, qui est une société que tu as créée, que tu as cofondée en 2011 et qui s'est bien développée depuis ?
Oui, avec plaisir. Merci, Maïla. Donc, je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 36 ans et j'ai effectivement créé Gemio, qui est une marque de joaillerie avec mon mari il y a maintenant 9 ans. L'histoire derrière Gemio est simple, c'est que je me suis fiancée à l'époque et que nous n'avions pas de bague de fiançailles. Donc, on a été en chercher une avec mon compagnon. Et en fait, on a eu un peu la folie d'aller Place Vendôme en se disant, on ne le fait qu'une fois dans sa vie, donc on va tenter, on va aller voir ce que ça donne. Et c'était évidemment fabuleux, c'était magnifique, enfin, c'était trop beau, mais c'était aussi extrêmement cher. Surtout, c'était très intimidant et on s'est rendu compte que c'était pas forcément une expérience qui était destinée à des Français comme nous, parce que c'était très intimidant, comme je le disais, avec des prix qui étaient un petit peu décorrélés de la réalité. Et on s'est dit, mais c'est trop dommage, c'est quand même une très belle expérience, la joaillerie. Pourquoi avoir une déception comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une marque qui soit réellement une marque haut de gamme, made in France, mais qui permettrait d'avoir un bijou qui ressemble plus à la personne qui va l'acheter? Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de Gemio, si tu veux, de créer cette marque, alors qui est née d'abord 100% online et qui a maintenant des boutiques, mais une marque qui va redonner un peu ces lettres de noblesse à la joaillerie en France. Donc, on fabrique tout en France et toute l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que chacun puisse s'approprier son bijou, puisse, entre guillemets, le co-créer pour qu'il révèle un petit peu la personnalité de chacune, on va dire, et que tu ne portes pas, tu vois, la même bague que ta copine. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas sur le site, on a plein de collections et tu vas pouvoir choisir à chaque fois la pierre, le métal de ton bijou. Donc, tout autant choisir de l'or blanc et de l'émeraude que de l'or rose et du saphir ou du diamant, etc. Et ensuite seulement, on le fabrique pour nos clients sur mesure. avec une qualité très haut de gamme. Et donc vraiment, cette idée, c'était ça. C'était de se dire, une marque de joaillerie, c'est avant tout un moment dans la vie qui est très important, parce que ça va être lié à des fiançailles, à une naissance, un anniversaire. Et donc, on avait un peu envie de réenchanter cette expérience. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 9 ans.
D'accord. Donc, c'est une belle entreprise qui a bien grandi ces dernières années. Et c'est vrai que dans les startups innovantes, on constate souvent qu'on a des parcours, des profils variés qui sont un peu la force de ces structures, qui favorisent l'innovation. Est-ce que c'est également le cas chez Gemio ?
Oui, complètement. Et j'ai même envie de te dire que je pense que c'est particulièrement le cas chez Gemio, parce que comme on est une marque de joaillerie qui est née sur le net, qui est digitale, on a à la fois des profils qui sont complètement typiques d'ingénieurs et qu'on va retrouver dans des boîtes SaaS, tech, etc. Mais on a aussi des créatifs, on a aussi des personnes qui sont des passionnés de joaillerie, on a aussi des gémologues, on a aussi des conseillers de vente, donc qui sont des profils plus commerciaux, du marketing. Donc en fait, si tu veux, on a vraiment un petit monde à nous qui est assez unique, parce que tu vas avoir tout autant le geek techos complètement caricatural, tu vois, qui passe sa vie dans le code et qui aurait très bien pu se retrouver dans une startup tech. Mais en général, dans une startup tech, tu ne vas avoir quasiment que ça et des sales éventuellement et de la direction, mais pas vraiment d'autres profils. Nous, dis-toi que cette personne doit en plus collaborer avec une directrice artistique ou avec un gémologue ou avec une personne qui est passionnée de joaillerie qui est là pour suivre la fabrication de nos bijoux. Et ça, c'est des profils qui n'ont rien à voir. Ou encore, va pouvoir collaborer avec des personnes qui sont sur le terrain en train de conseiller des clients pour leur achat d'un bijou ou d'une bague de fiançailles. Donc ça fait un petit monde qui est assez original, qui s'entend très bien, très
hétéroclite,
et qui est assez charmant, enfin, qui n'a pas toujours été facile à construire, parce que justement, les personnalités, je pense, sont tellement différentes, si tu veux, que ce n'est pas forcément facile à faire cohabiter. Mais je crois beaucoup que justement, quand tu arrives à avoir cette complémentarité, tu peux ensuite en faire émerger quelque chose d'assez beau.
Et alors, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui disent que ce qui leur a permis de construire une entreprise pérenne, c'est finalement de s'attacher les services de collaborateurs fidèles qui étaient là depuis le début. Est-ce que c'est le constat que tu fais également chez Gemio ? Tu as des salariés qui sont là depuis le début de l'aventure et qui ont été des soutiens fidèles dans la construction de cette entreprise ?
Oui, complètement. Et je dirais que c'est hyper important, même si je vais y mettre une petite nuance un peu plus tard. Mais pour te donner un exemple, on a l'un de nos collaborateurs qui est en fait, qui commençait comme stagiaire chez Gemio en 2012 et qui maintenant est quand même DGA, donc directeur adjoint de Gemio, en passant par tous les échelons, en faisant tout. Il a commencé, il faisait des colis et maintenant, je te dis, il est dirigeant de l'entreprise, donc c'est assez beau quand tu y penses. Et ce qu'il y a d'assez beau là-dedans, c'est qu'au-delà du fait qu'il est attaché, je pense, à l'entreprise, à l'équipe, il est aussi très, très attaché au projet. Et je pense que cette fidélité, en fait, elle est assez clé et elle crée vraiment un attachement très fort à la mission de l'entreprise. C'est des personnes qui connaissent l'entreprise de A à Z et qui évoluent avec elle. Et ça, c'est assez merveilleux. À l'inverse, je pense qu'il faut faire aussi un petit peu attention quand on est entrepreneur, parce qu'en fait, quand on recrute des personnes au départ, très souvent, ce sont des personnes qui sont là parce que c'est très entrepreneurial, justement, qu'ils ont envie de travailler en direct avec les cofondateurs, que voilà, c'est des profils, si tu veux, qui sont très polyvalents. Et la réalité, c'est qu'avec le temps, très souvent, l'entreprise se structure, elle s'organise, et donc ces collaborateurs qui étaient complètement polyvalents vont devoir, à un moment donné, eux aussi, se spécialiser dans un domaine. Et c'est souvent un passage qui est un petit peu difficile dans la vie d'une start-up ou d'une entreprise, parce que c'est un moment où le métier change, si tu veux. Et donc, je dirais qu'il faut faire attention, parce que la fidélité, oui, mais en fait, il ne faut pas fidéliser à n'importe quel prix. Il faut que la personne qui a été recrutée initialement aussi accepte d'évoluer de la même manière que l'entreprise évolue. Et donc, il est hyper important que ça soit le cas et que cette personne accepte aussi de se spécialiser, parce que sinon, malheureusement, elle reste, tu vois, à faire un peu de tout, à être très entrepreneuriale, mais pas forcément devenir directeur marketing ou directeur financier.
Donc, c'est un peu l'acceptation de la transition vers l'hyperspécialisation. Enfin, vers plus de spécialisation en tout cas.
Exactement.
Et toi, ce gap-là, tu l'as mis en place il y a combien de temps ? Enfin, tu constates qu'il a eu lieu il y a combien d'années ?
Alors écoute, il est arrivé autour de 2013, donc assez peu de temps quand même après le début de l'entreprise. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, on avait levé des fonds, pas mal de fonds. Et donc, on a commencé à beaucoup plus recruter et à structurer justement les équipes et à créer des vrais pôles. Au début, tu sais ce que c'est. Enfin, tout le monde fait un peu tout. Donc, moi, je faisais tout autant de la production. Je gérais les ateliers, que je faisais du marketing, que je faisais du service client. Enfin, il n'y avait pas vraiment, si tu veux,
de rôle
et de mission, exactement. Et quand on a levé des fonds, déjà, en fait, on a dû expliquer quels allaient être nos rôles respectifs, nos missions respectives au fonds d'investissement auprès de qui on a levé. Et puis, en plus, au-delà de ça, il fallait quand même qu'on se structure puisqu'on allait recruter. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, que ces premiers profils qu'on avait recrutés, qui étaient vraiment des personnes de qualité, mais il a fallu, pour certains, leur expliquer qu'ils allaient devoir se spécialiser, qu'ils allaient devoir choisir et qu'on allait les accompagner là-dedans. Certains avaient très envie de le faire, et c'était le cas, par exemple, d'Étienne. Et ça s'est hyper bien passé. Mais d'autres, non, ça, c'était pas ce qu'ils voulaient, et ce que je peux complètement comprendre. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il faut accepter de trouver d'autres personnes qui vont plus correspondre, si tu veux, au nouveau rôle.
D'accord. Et dans ton podcast, on voit que tu interroges souvent des chefs d'entreprise sur les méthodes de recrutement, le management qu'ils entendent mettre en place dans leur propre structure. On voit bien que ce sont des sujets qui te passionnent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je trouve que ce sont des sujets extrêmement complexes, extrêmement difficiles, que je vois beaucoup de souffrance aussi via mon podcast sur ces sujets-là, parce que je pense que comme il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions et que les gens galèrent, franchement. Et puis surtout, je me reconnais beaucoup parce que je ne suis pas du tout née bon manager. Je ne sais pas si je le suis maintenant, mais je pense que j'ai quand même progressé.
Tu as initié une sacrée remise en question, donc on peut penser quand même que tu,
j'ai que progressé, tu as bien progressé sur le sujet. J'ai progressé, mais c'est rigolo. Tu sais que j'ai interviewé sur le podcast un monsieur qui s'appelle Cédric Watine, qui
podcast du management.
Ouais. Exactement. Et qui lui-même me disait que maintenant, si tu es les références en management, mais qu'en fait, quand il a commencé, il était nullissime et que c'est justement quand il s'est rendu compte qu'il fallait que ça change qu'il a commencé à s'intéresser au sujet, à se cultiver et à changer aussi ses méthodes de travail et son approche. Et moi, c'est un peu la même chose. Au début, je pense que j'étais entrepreneur, j'étais une vraie entrepreneur, donc j'aimais faire moi-même. J'aimais pas déléguer, je micromanageais. Enfin, j'étais la caricature, si tu veux, de ce que tu ne veux pas avoir dans une entreprise. Et je pense que j'ai appris à la dure parce que ça s'est parfois malheureusement mal passé, pas parce que les personnes n'étaient pas les bonnes, mais plutôt à cause de moi, je pense. Du coup, j'ai vraiment appris à la dure qu'il fallait que je change mon comportement et qu'il fallait surtout que je fasse évoluer mes collaborateurs avec moi et que moi-même, surtout, j'évolue. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce sont des sujets qui m'intéressent et que je vois, je te dis, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui soient entrepreneurs d'ailleurs ou pas. Et je pense qu'en parler, c'est hyper utile, à la fois pour des dirigeants, pour des entrepreneurs, mais aussi pour des collaborateurs, parce qu'on oublie un petit peu, mais c'est pas évident de savoir comment... quand on a un nouveau collaborateur, s'insérer dans une nouvelle entreprise, comment dialoguer avec son supérieur hiérarchique, quelle doit être sa place. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ce genre de sujet et d'essayer d'aider un petit peu à trouver ses marques.
D'accord. Mais en tout cas, comme dans tout ce que tu fais, tu t'es impliqué avec beaucoup de grand investissement et du coup, tu es devenu un laboratoire de pratiques de recrutement innovantes un peu à toi toute seule. Et c'est intéressant à ce titre d'avoir ton avis parce que tu rencontres beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que tu as des techniques particulières que tu pourrais recommander pour arriver à un recrutement réussi ? Est-ce que tu as, au fil des années, construit une sorte de petit manuel de recrutement ?
Alors, manuel de recrutement, je ne sais pas, mais j'ai un peu un process quand même qui varie, je dois te dire, Marie-Laure, entre le type de personnes quand même qu'on recrute dans l'entreprise, tu vois. Mais malgré tout, qui est assez homogène. Je l'ai co-créé avec toute l'équipe Gémio, mais je pense qu'il fonctionne bien pour nous. Déjà, la première chose qu'on fait, et je pense qui est assez clé, c'est qu'on travaille énormément la fiche de poste. Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'erreur pendant des années de ne pas le faire et de, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, se dire « Ah, je vais recruter quelqu'un et on verra bien comment ça évolue, sa mission, etc. » Je veux tel type de profil à peu près. Je sais que je veux, un directeur marketing ou un consultant en vente, etc. Et bon, globalement, je sais à quoi ça correspond. La réalité, c'est que le problème, c'est quand tu fais ça, tu sais pas exactement qui tu cherches, premièrement. Et surtout, tu ne sais pas exactement comment expliquer à la personne que tu vas recruter quelles sont les attentes. Et donc, il peut y avoir ensuite beaucoup de déceptions derrière. Donc maintenant, c'est très clair. On fait des fiches de poste et on prend beaucoup de temps pour réfléchir aux missions, qui sont les missions que cette personne doit accomplir. Et du coup, quels sont les KPIs, quels sont les moyens dont on va pouvoir suivre justement l'évolution de cette personne, quel est son report hiérarchique, avec qui elle va devoir interagir dans l'équipe. Donc, disons que vraiment, on structure assez tôt, si tu veux, dans le processus, vraiment, quel va être tout le microcosme autour de cette personne et de ce nouveau recrutement. Je te donne un exemple. Dans le cadre d'un recrutement qu'on fait actuellement sur un directeur marketing, la mission, c'est générer plus de leads pour Gémio. Et donc, c'est très clair. Et les leads, on va vraiment qualifier dans le détail ce que c'est. Est-ce que c'est des leads en boutique ? Est-ce que c'est des leads sur le site internet ? Ça, c'est hyper important parce qu'une fois de plus, quand tu vas recruter la personne, il faut qu'elle puisse se projeter dans le poste. Il faut qu'elle puisse se dire « Ok, ça me correspond. » Et c'est pas la même chose, un lead sur un site internet et en boutique, par exemple. C'est pas la même chose, quelqu'un qui va devoir convertir et quelqu'un qui va devoir générer de l'acquisition. Donc, c'est hyper important d'être assez précis, je trouve, dans les mots.
Dans la description du poste, en tout cas, exactement. Que tu recherches. Vas associer le hiérarchique systématiquement, le supérieur opérationnel, la personne qui va travailler avec le...
Oui, tout à fait. C'est pas moi qui le fais, évidemment, pour quelqu'un que je recrute pas dans mon équipe. Ça, d'accord. Je le fais pour mon équipe. Mais après, je pense que chacun doit le faire avec son équipe. Et après, c'est le rôle éventuellement du encore N+1, tu vois, d'aider justement dans l'élaboration de la fiche de poste et d'aider plus sur le process général de comment est-ce qu'on recrute dans telle ou telle boîte. Mais par contre, non, c'est pas moi qui vais décider et c'est pas moi qui vais faire la fiche de poste pour, par exemple, un conseiller de vente qui va être recruté par notre directrice commerciale. Après, elle, bah, elle sait que c'est important justement d'être bien précis sur ces détails.
D'attacher l'attention à la fiche de poste. Donc ça, c'est la première étape, la rédaction de manière extrêmement précise des missions que vous allez confier à ce collaborateur et de la fiche de poste détaillée.
Exactement.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh bien écoute, c'est une bonne question. Il y a plusieurs étapes. Il y en a une assez courte, mais qui est importante, qui est un premier filtre très rapide que je fais personnellement au téléphone pour gagner du temps, je vais être honnête, parce que quand tu reçois énormément de CV, bah, c'est quand même important et on sait que le recrutement, ça prend beaucoup de temps. Donc, que tu passes d'ailleurs par une agence ou un chasseur, que tu passes en direct, tu vois, via diverses plateformes, moi, en fait, je fais systématiquement un premier petit call rapide avec quelques questions simples. Et là, l'idée, c'est vraiment de comprendre si la personne correspond dans les grandes lignes, si tu veux, à ce que je recherche et notamment en termes de profil. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que dans la fiche de poste, en fait, que j'élabore, c'est à la fois très précis en termes de mission, mais c'est aussi assez précis en termes de type de profil. Et c'est pas que je veux avoir une idée forcément préconçue et que j'ai un peu des bornes, tu vois, dans ma tête qui me disent « Ok, il me faut exactement tel type de personne. » Mais globalement, quand même, je pense qu'il est bon de se dire que si tu recrutes un développeur informatique, bah, il faut que ça soit quelqu'un qui soit plutôt très sensible aux détails, qui soit très consciencieux. À l'inverse, si tu veux recruter un directeur marketing, bah, il faut que ça soit quelqu'un de plutôt extraverti, qui va, enfin en tout cas dans notre cas, qui va vraiment vouloir aller porter la marque dehors, être très commercial, etc. Et donc ça, je pense que c'est important d'avoir ce petit mapping dans sa tête du type de profil que tu veux. Donc c'est pour ça que ce premier call très rapide, via quelques questions un peu personnelles sur bah, quels sont ses grands talents, quelles sont ses grandes faiblesses, quels sont les moments de fierté qu'il a pu avoir dans son entreprise, ce genre de choses, va te permettre de déterminer franchement en 10 minutes, un quart d'heure, si cette personne correspond globalement ou pas à ton
l'idée
profil.
Que tu t'en fais.
Exactement.
D'accord.
Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, le test. Alors ça paraît... Il y a des gens qui poussent des O et des A en disant « mais c'est pas possible ».
C'est vrai que c'est pas courant, en fait. Enfin, ouais. Peut-être pas assez, d'ailleurs, parce que finalement, c'est un bon moyen aussi de se rendre compte si on est sur la même longueur d'onde.
Bah, écoute, nous, on fait pas passer de tests psychologiques. Alors, je sais qu'il y a des boîtes qui le font, mais nous, c'est un test, on va dire, opérationnel. Donc, typiquement, je reprends l'exemple de notre conseiller de vente. Tu vois, un conseiller de vente, il va effectivement être face à un client, mais il va aussi beaucoup converser avec lui par courrier électronique. Et notamment, en fait, il va lui envoyer des messages pour le remercier, pour le relancer, etc. Tu te doutes qu'en joaillerie, avec des paniers moyens entre 1 000 et 10 000 euros, si jamais tu fais une énorme faute d'orthographe et que tu parles mal français, mais en fait, c'est un tue-l'amour total. Donc, il faut évidemment faire très attention à ça. Et donc, pendant longtemps, en fait, on découvrait a posteriori que la personne faisait des fautes d'orthographe. Maintenant, on fait faire une dictée.
D'accord.
Et on fait faire une dictée surprise, en
D'accord.
séance. Et voilà. Ou tu peux avoir un autre cas de figure où, je te donne l'exemple du fameux directeur marketing, c'est assez difficile si tu veux attester. Bah, tu vas faire un petit case study où tu dis à la personne, parce qu'il ne faut pas lui faire perdre trop de temps non plus, vous avez 2 heures et tout le monde va avoir 2 heures, donc tout le monde est logé à la même enseigne et il faut faire, le lancement de telle collection et voilà l'objectif, etc. Voilà le budget que vous avez, etc. Ça, sincèrement, c'est hyper intéressant parce que tu vas te rendre compte très concrètement déjà comment la personne travaille, comment elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle a pu produire. Et je dirais que c'est aussi un très très bon filtre qui te permet vraiment d'aller assez loin justement dans le détail en fait de ce que cette personne va pouvoir apporter à l'entreprise. Donc pour moi le test est assez crucial comme moment.
Donc si ça c'est une vraie étape stratégique du recrutement à laquelle tu attaches beaucoup d'importance.
Ouais.
On a bien compris. Donc les fautes d'orthographe sont rédhibitoires sur les postes de vente. En tout cas
exactement.
Et ceux qui sont amenés à côtoyer de très près la clientèle de Gémio.
Exactement.
D'accord.
Étape d'après il en reste deux. Il reste une étape qui est l'entretien, le vrai, qui est un entretien pour le coup très axé sur qu'est-ce que la personne a pu accomplir comme mission, comme tâche, sa manière de réfléchir, les outils qu'elle a l'habitude d'utiliser, etc. Donc ça, c'est on va dire un entretien qui est assez technique en général et qui est mené par le manager qui va recruter cette personne. Donc si c'est moi qui le fais, c'est parce que c'est quelqu'un qui va être dans mon équipe. Et si c'est, quelqu'un justement qui va être en vente, c'est donc la directrice commerciale qui va le recruter. Et enfin, la dernière étape, une fois que ce tour est validé aussi, c'est une étape que je trouve hyper importante et qu'on n'a pas fait tout de suite avec Gémio, mais qui est assez clé. C'est l'étape en fait de vraiment faire rencontrer un maximum de collaborateurs à cette nouvelle personne qui risque d'arriver. Et là, c'est une étape, si tu veux, qui je trouve va apporter quelque chose d'assez différent. Premièrement, un peu de recul par rapport à ce que toi, en tant que recruteur, tu peux penser de la personne que tu as en face de toi, parce que souvent, quand on est dans un process de recrutement, c'est un peu fatigant, on voit beaucoup de CV, on est un peu le nez dans le guidon. Et avoir une bouffée d'air frais d'une équipe qui connaît la mission aussi et qui va mais juste bah, donner un avis complètement extérieur sans connaître les détails techniques, c'est souvent assez utile. Je précise d'ailleurs que cet entretien est un entretien complètement informel, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas, ils ont le CV, mais l'idée, c'est pas de questionner, si tu
de
veux, la personne.
De mettre mal à l'aise le
Non,
le
c'est plus de comprendre
candidat.
Qui est cette personne, quelle est sa personnalité, quelle est sa vision pour son poste, pour son rôle, comment elle va s'inclure dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus informel, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est important. Et le deuxième point, c'est que ben, en fait, ça va permettre d'impliquer l'équipe.
Exactement.
Exactement. Et on sait très bien que ben, faire venir un nouveau collaborateur, c'est à la fois difficile pour le collaborateur, pour le manager, mais aussi c'est difficile parce que bien souvent, voilà, il faut réussir à faire
cette
en sorte
intégration.
Que l'intégration se passe bien. Et donc si tu as la moitié de ton staff qui était là et qui a validé, qui a dit oui, on aime bien cette personne, on trouve que c'est une personne ben, qui fit bien avec Gémio, avec l'état d'esprit, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Et à l'inverse, imposer quelqu'un de manière un petit peu souveraine, tu vois, en disant voilà, c'est cette personne, etc. On sait que quand même bien souvent, ensuite, il faut ramer derrière pour faire en sorte que cette
la
personne
légitimer.
Soit bien, voilà, ouais. soit bien incluse dans l'équipe. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien.
Donc, finalement, c'est une manière d'engager, enfin, d'intégrer davantage tes collaborateurs à ce process et donc de valoriser leur
avis,
leur avis finalement, et puis aussi de sortir un peu des biais que toi tu pourrais avoir en tant que
recruteur. C'est pour ça que je tiens à ajouter que c'est pas uniquement entre guillemets de la c'est pas de la manipulation, tu vois, de faire en sorte que les collaborateurs acceptent cette personne. C'est réellement hyper utile parce que si tu as un veto de tes collaborateurs qui te disent honnêtement, on se voit pas bosser avec, enfin, il vaut mieux que tu t'en rendes compte avant d'avoir fait l'offre, parce que si effectivement ça se passe mal, ça va être un enfer pour tout le monde.
D'accord. Donc vraiment, tu prends en considération leur avis, et si ils opposent tous un veto, effectivement, le recrutement n'aura pas lieu,
ouais,
même si toi,
fait.
Le candidat était
tout à fait.
Sur
Alors,
la première marche
nous
du podium,
et d'essayer d'aller au-delà, mais à ce moment-là, c'est au manager, c'est au leader d'avoir un devoir de conviction et de faire repasser un entretien et d'expliquer. Mais disons qu'il n'y a pas de forcing au sens si jamais vraiment personne peut supporter le pauvre candidat pour une raison X ou Y, non, enfin, ça va pas se faire parce que c'est pas souhaitable, je pense.
Donc finalement, c'est une décision complètement collégiale, en fait.
C'est ouais.
D'accord. Et est-ce que tu as des critères, excuse-moi, de diversité d'âge, de sexe, d'origine sociale?
Alors malheureusement,
lorsque tu procèdes au recrutement,
je ne sais pas. Non, malheureusement, je dis ça parce que évidemment, ça serait toujours bien d'avoir le luxe de se poser cette question. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est plutôt, assez divers, comme je te disais, chez Gémio. Premièrement, en fait, on est très équilibré en termes de répartition hommes-femmes, bah, notamment parce que, et c'est un peu la caricature, malheureusement, comme on a à la fois beaucoup d'ingénieurs, etc.,
des
créatifs.
Technicien.
Bah, exactement, donc c'est très équilibré. Il se trouve aussi que, bah voilà, au niveau de la diversité ethnique, on a aussi une certaine diversité ethnique, mais sincèrement, qui est plus due au hasard et au fait que ces personnes étaient très compétentes, et tant mieux. Et en fait, on n'a jamais fait le choix, si tu veux, de la discrimination positive en se disant on va privilégier telle ou telle personne. Moi, je t'avoue que c'est pas ma manière de fonctionner. Je veux vraiment privilégier, bah voilà, le non seulement le talent, mais en fait la compétence et le fait que la personne, voilà, est vraiment quelqu'un qui va fitter. Et je trouve que c'est déjà tellement difficile si tu veux de recruter une bonne personne. Si en plus tu dois te mettre des contraintes à notre échelle avec 30 salariés, si tu veux, c'est très très compliqué. Donc pour l'instant, on ne le fait pas, mais il se trouve que c'est plutôt divers. Le petit point, je dirais, où on n'est pas très bon, mais je pense que c'est un peu lié à notre secteur d'activité assez digital, c'est sur un certain biais pour le jeunisme, puisqu'on a, je crois, une moyenne d'âge autour de 28 ans chez Gémio. Donc voilà, on n'a pas encore recruté de seniors.
De plus seniors, mais en même temps, l'entreprise est jeune, donc vous avez le temps de vous y mettre. Et je me souviens d'avoir écouté une interview dans le gratin d'Augustin Paluel-Marmont, qui est le CEO et cofondateur de Michel et Augustin. Et j'avais trouvé super intéressant son processus pour les recrutements stratégiques. Il expliquait qu'en fait, pour prendre une décision, il se posait systématiquement la question « Est-ce que j'ai envie de partir en vacances avec cette personne ?» Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas prendre en compte ou tu trouves ça trop subjectif, ce type de critères? Quels sont finalement tes critères à toi, tes critères prépondérants, si tu les as identifiés?
Je trouve ta question excellente parce que pendant longtemps, je pense que j'étais comme Augustin. Et je ne dis pas que j'ai raison ou qu'il a raison, enfin, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a un biais, en fait, forcément, pour vouloir être avec des personnes avec lesquelles on s'entend bien. Et je pense que d'ailleurs, je comprends tout à fait pourquoi il dit ça, c'est qu'au final, tu travailles quand même 80% de ton temps avec cette personne. Si tu t'entends mal avec, franchement, ta vie peut être un cauchemar. Et donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes sur le podcast. Il y a eu Augustin, il y a eu Fred Mazzella aussi, de Blablacar, qui te disent, bah, globalement, ton collaborateur direct, il faut que ça soit quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Et à la fois, bah, je les respecte beaucoup, donc je vais pas dire, tu vois, que c'est pas des bons avis, mais en même temps, j'en suis un peu revenue pour ma part, parce que je dis pas qu'il faut mal s'entendre, évidemment, avec ces personnes, mais je pense par contre qu'il est aussi très très important de faire attention à pas avoir un biais qui est un biais de tout le monde est un peu pareil, justement pour revenir sur le sujet de la diversité, mais je parle même de la diversité, si tu veux, intellectuelle. Si moi, par exemple, je suis un profil plutôt dans le profil disque I et D, donc qui va de l'avant, qui avance beaucoup, qui prend des décisions, avoir une personnalité beaucoup plus averse au risque, beaucoup plus prudente, quelqu'un qui va être beaucoup plus consciencieux, en fait, ça peut apporter énormément dans l'entreprise. Et pour autant, en général, ce genre de profil ne s'entend pas très très bien, tu peux l'imaginer, enfin, pas mal, mais disons qu'il y a quand même un petit peu des étincelles parce que on n'est pas d'accord. Et je trouve que ce désaccord, être un peu d'accord dans le désaccord, c'est aussi très intéressant et je pense que c'est assez riche pour une entreprise. Donc c'est pour ça que j'en reviens un petit peu. Je dirais qu'il faut évidemment bien s'entendre avec les personnes, mais il faut avant tout les respecter et savoir pourquoi ils ont une vraie place et un rôle à jouer dans l'entreprise. Et donc moi, je connais ma personnalité, je connais mes défauts, mais avoir une personne qui est différente de moi, dont je connais les qualités et je connais les défauts et vice-versa, il va aussi se connaître et me connaître. Je pense que c'est un dialogue qu'il faut qu'on ait tous ensemble. En fait, c'est assez riche. Et je pense que la solution d'être, entre guillemets, tous copains et tous ressembler est parfois un petit peu dangereuse parce que tu peux aller dans un sens qui est unique, si tu veux, et sans border les risques.
Alors, il me semble que ces discussions avaient lieu sur les très proches collaborateurs d'Augustin. Donc, je crois que c'était des recrutements stratégiques auxquels ils se livraient. Effectivement, peut-être qu'après, quand on grossit et qu'on est plus nombreux, il n'y a plus tellement de place pour ce type de considération. Mais toi, effectivement, tu as fait le constat que c'était bien d'avoir des personnalités diverses et variées pour temporiser un peu des décisions que tu serais amené à prendre un peu dans l'urgence et d'avoir des gens peut-être plus posés ou moins ou plus
averses au risque, comme tu disais. Je te donne un exemple. Bon, alors, je pense que Michel Augustin, en plus, c'est particulier parce que c'est un ADN de marque qui est vraiment orienté vers la bonne entente, etc. Nous, on est un petit peu schizophrène chez Gémio parce qu'on est à la fois dans le rêve, dans la création et donc dans le marketing, dans un côté d'une certaine manière commercial, etc. Mais on est aussi sur le web.
L'innovation.
Exactement. Mmh. On est une marque de joaillerie. Donc, qui dit joaillerie, dit luxe, dit aucun droit à l'erreur. Mmh. Et pour ça, en fait, si tu veux, tu as besoin d'être un peu schizophrène. Parce qu'à la fois, tu veux créer le désir et donc faire rêver et donc produire énormément.
Imposer un certain degré d'exigence aussi, peut-être.
Et en même temps, il faut que ça soit absolument irréprochable. Et donc, c'est pour ça que je pense que chez nous, en tout cas, avoir ce type de profil très différent entre quelqu'un qui va être très créatif, un peu bordélique, très sympa, très extraverti, tu vois, mais franchement, il faut quand même se dire que derrière, il faut rattraper les pots qui tombent par terre. Et à l'inverse, avoir un autre type de profil au niveau stratégique aussi, qui va être beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus calme, beaucoup plus lent dans la réflexion, c'est quand même très utile. Par contre, il faut savoir collaborer ensemble. Il faut réussir justement à faire travailler ces deux types de personnalités. Mais si tu y arrives, ça peut être vraiment très riche.
Bah justement, tu vas nous expliquer comment tu fais collaborer toutes ces personnalités diverses et variées. Une fois effectivement que l'étape du recrutement est passée, on en vient au management. Comment vous faites chez Gémio pour motiver vos équipes? Et est-ce que, par exemple, vous arrivez à organiser des entretiens réguliers avec vos collaborateurs, des one-to-one hebdomadaires, des réunions d'équipe? Comment ça fonctionne en fait?
Alors, il y a plein de choses. Franchement, c'est un sujet qui est assez vaste et je ne suis pas sûre de pouvoir tout dire ici. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, il y a un lien de confiance qui doit être très fort entre le collaborateur et entre son manager. Et je dirais pour le coup, presque un lien d'amitié, effectivement, entre les deux. Et pour moi, ça, c'est assez crucial parce que pour qu'il y ait un vrai bon travail en équipe, il faut vraiment qu'il y ait ce respect et cette confiance entre ces membres de cette même équipe. Et ça, c'est pas mal le rôle du manager, de la générer. Donc, c'est bête à dire, mais en passant du temps avec, en s'intéressant à sa vie de famille, en essayant de comprendre qui est cette personne. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un critère qui est absolument clé d'avoir cette considération, si tu veux, pour le collaborateur. Ensuite, comment ça passe dans la vie courante, par quoi ça passe, pardon, concrètement? Ça passe par plusieurs choses. Déjà, avoir une vision un peu générale et globale de, une fois de plus, la mission et des attentes sur l'année. Donc ça, c'est une roadmap, une feuille de route, tu vois, qui est prévue pour l'année, d'accord, qui est co-créée entre le manager et le collaborateur et qui va être hyper importante parce que ça va permettre de suivre concrètement si la personne est on track ou pas, par rapport à des projets. C'est pas pour le fliquer, mais c'est juste pour voir si les projets avancent. Et au-delà de ça, il va y avoir des points réguliers. En général, ça dépend un petit peu pour les collaborateurs, la manière dont ils veulent travailler avec leur manager et vice-versa, mais c'est globalement quand même pas mal une fois par semaine, et c'est un point qui va permettre de faire du feedback, qui va permettre de faire un point d'avancement justement sur les projets, de répondre à des questions aussi, parce que souvent le manager sert à ça en fait, tout simplement. Donc il y a quand même des points qui sont très très réguliers effectivement, et qui permettent de créer ce lien et de créer cette confiance dans le temps pour réussir à avancer. Donc je dirais que c'est les deux outils principaux, des one-on-one effectivement
très réguliers
et puis une vision un peu plus globale pour, ouais. Pour le poste et pour le rôle.
D'accord. Et donc c'est au cours de ces points un peu plus globaux sur la stratégie que vous allez fixer les objectifs des uns et des autres, et ça va être, je ne sais pas à quelle fréquence, vous avez des objectifs qui sont trimestriels, annuels?
Oui, c'est à peu près, en fait, alors il y en a un annuel si tu veux, qui est fait en début d'année, et puis ensuite c'est revu à peu près une fois par trimestre, et ça, ça permet justement de voir s'il faut le faire évoluer, etc. On n'est pas hyper psychorigide là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas mal le manager justement et le collaborateur qui vont voir si on est en train d'aller dans la bonne direction, ou si en fait il faut peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'en fait la roadmap est juste pas bonne.
D'accord.
Et qu'il faut changer les priorités. Donc il faut pas faire n'importe quoi, mais disons qu'on laisse quand même pas mal de liberté à l'équipe justement pour décider ou pas s'il faut qu'elle continue dans le sens ou pas.
Et vous avez des outils dédiés en interne que vous utilisez?
Ouais,
je sais pas,
y en
des
a
applications.
Tu vois, des trucs style Jira, enfin des trucs de gestion de projet en fait basiques. Après, sincèrement, chacun utilise un peu des outils différents.
D'accord.
Il y a pas de là-dessus.
De process là-dessus.
Non, il y a pas énormément de process là-dessus. Chacun fait un peu comme il le sent. Ça peut être honnêtement des Google Docs, comme ça peut être un outil un petit peu plus technique pour l'équipe IT typiquement. Donc c'est assez variable.
Ok. Et vous avez mis en place des outils pour fidéliser les collaborateurs, enfin ou des manière de fidéliser les collaborateurs plutôt que des outils pour vous assurer qu'ils aient envie de rester? Est-ce que
je pense que l'outil, c'est une bonne question. L'outil principal qu'on utilise, c'est la motivation et c'est, je pense, l'envie de développer l'entreprise et le projet. Donc en fait, c'est très humain et c'est très, enfin, il y a pas d'incentive financier particulier à ce stade. Il y a un des collaborateurs qui a des BSPCE, mais en fait, c'est en général plutôt vraiment assez émotionnel, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on fait régulièrement, typiquement une fois par mois, des réunions d'équipe où on explique la vision de l'entreprise, les potentielles difficultés. Là, tu vois, par exemple, crise du coronavirus oblige, on a fait une réunion pour dire on ne sait pas si jamais il va y avoir un impact ou pas sur nos chiffres. Vraiment, on informe énormément les collaborateurs pour qu'ils se sentent, et pas que qu'ils
impliqués
se sentent,
au quotidien.
Qu'ils soient impliqués, si tu veux, au quotidien, et qu'ils aient vraiment une vision assez transparente de là où va l'entreprise. Et je constate que ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien parce que les gens ont envie de participer à un projet et ils ont envie de voir les effets de leurs actions. Et quand tu leur expliques que là, ce qu'ils ont fait, ça a permis de faire X% de croissance, sincèrement, c'est jackpot, quoi. Ils sont hyper heureux et je pense que c'est tellement rare aujourd'hui de trouver un sens dans son job à ce point-là que c'est simple, mais ça fonctionne déjà très très bien. Donc ça, sincèrement, c'est le premier outil et je dirais que c'est le plus puissant. Après, on fait plein de petits événements, RH, tu vois, des choses comme ça, mais c'est plus, j'ai pas envie de dire c'est de la poudre aux yeux, c'est plus que c'est sympa et que ça crée
une bonne fédérateur,
c'est
finalement.
Fédérateur. Oui. Mais pour moi, c'est pas ça qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir une mission claire, je veux dire, une mission d'entreprise claire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, auquel tout le monde croit? Tu vois, une raison de se battre d'une certaine manière, et puis que chacun vraiment se sente impliqué et voit vraiment qu'ils vont mettre leur pierre à l'édifice.
Oui, puis c'est ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu expliquais que tu impliquais tes collaborateurs sur le recrutement des nouveaux arrivants. Finalement, ça fait partie un peu de ce même process dans lequel tu laisses la place à chacun. Je pense qu'aussi, c'est une valorisation peut-être des parcours, notamment d'Étienne dont tu parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui DGA et qui est rentré.
Je pense que chez Gémio, les gens voient que c'est possible de d'évoluer. Tu vois, parce
D'accord.
que finalement, il y a énormément de collaborateurs dans l'entreprise qui ont commencé à un poste très différent de celui auquel ils sont aujourd'hui et qui nous ont étonnés. Et en fait, on laisse la place, si tu veux,
à la
progression, mais en fait, au fait que quelqu'un qui va vraiment être motivé, s'impliquer et réussir, en fait, j'ai envie de dire, sky is the limit, quoi. On a vraiment envie de lui donner, enfin, nous, on a plutôt intérêt à ce que justement il reste et qu'il devienne le plus performant possible et qu'il prenne le plus de place. C'est vraiment ça. C'est, je dirais, on fait en sorte que les gens prennent le plus de place possible.
Et est-ce que vous essayez d'innover avec, des modes de collaboration un peu nouveaux? Je sais pas, par exemple, vous avez expérimenté le télétravail.
Alors, en ces temps
de coronavirus, de grève, est-ce que c'est...
Alors, on en fait un peu, là, en temps de coronavirus. Y a une réalité, c'est qu'on a des personnes qui sont en boutique et des personnes aussi qui sont, qui font des expéditions, qui font du contrôle qualité de bijoux, qui achètent des pierres. Donc, ça, t'es obligé d'être sur place. Et donc, il y a une réalité aussi, c'est que tout le monde ne peut pas faire du télétravail. télétravail et qu'il y a un biais, je pense, typiquement dans les secteurs de la tech où c'est assez facile de faire du télétravail. Nous, bon, il y a quand même toute une part dans l'entreprise qui ne peut pas, et donc ça pose la question d'ailleurs, bah, tu vois, de est-ce que tu vas les laisser seuls dans l'entreprise à risque ? Non, enfin, tu vois, il faut être exemplaire aussi, donc ça pose d'autres questions, on va dire éthiques. Mais après, concernant le télétravail, il se trouve qu'on a un employé qui est en télétravail depuis 2 ans.
D'accord.
Donc rien à voir, c'est un choix personnel, c'est que c'est quelqu'un qui est très nature, qui est arrivé à Paris parce qu'on l'a recruté et qui faisait très très bien son travail, mais qui assez tôt nous a dit, moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire du télétravail. Et on lui a dit, bah, écoute, c'est dangereux, mais on teste, on voit. Et je te préviens, si ça ne marche pas, on arrête. Et en fait, il a très bien joué le jeu, et nous aussi, je pense. Et donc, ça fait 2 ans que ça dure aujourd'hui. Et donc, il vient à Paris régulièrement, mais il vient peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu vois.
D'accord. Donc, pour les postes qui s'y prêtent, vous êtes plutôt favorable à ce type de pratique et d'organisation du
on
travail.
On est assez favorable. Après, la réalité, c'est que ce n'est pas évident, hein, parce que bah, du coup, tu perds beaucoup de temps, franchement. Là, c'est en l'occurrence quelqu'un qui est retoucheur, photographe retoucheur, et donc ben voilà, tu vois pas forcément derrière exactement ce qui se passe. C'est pas qu'il travaille pas, honnêtement, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que ben, tu peux pas donner ton avis aussi rapidement. C'est moins facile. Le travail en équipe est quand même moins simple. Donc je pense que pour certains types de profils qui sont assez individuels en équipe, franchement, ça pose pas trop de problèmes. Après, pour certains, c'est plus compliqué.
Et alors, au sein des équipes, on a amorcé ce sujet tout à l'heure. Comment est-ce que finalement vous faites pour vous assurer de la bonne entente entre les collaborateurs ? Donc, on a bien compris qu'au moment du recrutement, vous étiez très vigilant aux personnalités des uns et des autres. Mais une fois que c'est sur les rails, ça va passer, comme tu le disais, par peut-être les événements d'entreprise que vous allez organiser. Mais je sais, parce que dans les podcasts, tu as parlé précédemment, puis tu nous l'as redit là, au cours de l'interview, que tu avais passé le test du disque.
Oui.
Qui est donc une méthode qui permet de faire cohabiter des personnalités différentes, d'établir une communication avec des profils qui sont différents du nôtre. Est-ce que ça, c'est un outil auquel tu crois tellement que tu l'as implanté dans l'équipe Gémio ?
Non. Alors, j'en ai parlé à mes collaborateurs, et donc je pense que j'ai forcé personne, mais j'ai dit que moi, j'étais tel profil, et j'ai dit, à ton avis, quel profil es-tu ? Et donc, souvent, je pense que les gens, bah, c'est rigolo à faire, hein, sincèrement, donc tu le fais. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de collaborateurs qui l'ont fait. Après, là-dessus, on n'est pas du tout psychorigide et on laisse chacun faire comme il veut. Je trouve ça un peu mettre dans des cases les gens quand même, de les forcer, tu vois, à faire des tests psychologiques et tout ça. Je pense qu'on peut aussi savoir globalement, avec un peu de recul, qui est qui. Mais après, je trouve que c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet quand même de beaucoup adapter son discours sans du tout, une fois de plus, être dans la manipulation, mais juste se dire, ben non, ça, ce type de profil, cette personne, ben, ne va pas penser comme moi, tout simplement. Et c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste différent. Et il faut voir les avantages que ça a et les inconvénients que ça a, et vice-versa pour moi. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement que j'utilise beaucoup, moi, à titre personnel. Mais sans avoir besoin, si tu veux, de faire un test disque à la personne, tu sais globalement où il se situe en général, si jamais tu connais un petit peu la méthode. Donc voilà, donc c'est vrai que ça aide beaucoup à la collaboration. Et je pense que surtout, ce qui aide au-delà, effectivement, des petites soirées, des événements qui sont toujours très sympas, c'est vraiment montrer aux gens qu'on peut être différent et que c'est pas grave et que surtout, en fait, ça a des avantages, justement, d'être différent. Et je dis pas ça de manière pipeau, tu vois, le côté « Ah, il faut qu'on soit tous inclusifs et tout ». Non, je crois vraiment sincèrement au fait que si t'as que des profils C, c'est-à-dire des consciencieux dans une entreprise, tu vas droit dans le mur. Si tu n'as que des profils I, c'est un enfer, en fait. Rien n'arrive dans les temps, enfin, c'est un enfer. Et ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur et que dirigeant ou que manager, c'est de réussir à faire collaborer et à faire comprendre à des collaborateurs que justement cette richesse, elle vient du fait que bah, un « i », il va générer de la merde, si je peux le dire assez crûment, mais par contre, il va générer de l'attraction, du profit. Et par contre, un profil « c », il va être pas très bon certainement pour générer des ventes et avoir de nouvelles idées et prendre des décisions. Mais en revanche, par contre, si tu lui confies quelque chose, ça sera fait parfaitement et il aura vérifier que tout rentre bien dans les bonnes cases. Et donc, c'est aussi hyper important. Et c'est peut-être un peu réducteur, d'ailleurs, ce que je dis là comme ça. Mais globalement, je pense que c'est vraiment hyper important de croire à ça et de voir et de faire voir aux collaborateurs la richesse, en fait, du profil de l'autre. Et que chacun se remette un peu en cause et se dise, c'est pas que cette personne est stupide, qu'elle soit un peu... Parce que, par exemple, un C peut trouver qu'un vendeur, si tu veux, ou qu'un profil I ou un profil D est pas attentif aux détails, il est brouillon, il respecte pas les deadlines, ce genre de choses, c'est ce qui est vrai. Mais il faut qu'il voit que ça, c'est ses inconvénients, mais que l'avantage,
par ailleurs,
c'est qu'il arrive à créer du lien d'une manière folle avec un autre être humain. que ça, pour de la vente, c'est hyper important. Et donc, il faut vraiment réussir à faire voir voilà, les avantages et les inconvénients, je pense, de chacun, en fait, dans les différentes parties de l'entreprise.
D'accord. Mais toi, tu constates finalement qu'au-delà de ce disque que tu fais évidemment pas passer à tous tes collaborateurs, on l'a bien compris, et que chacun est libre de valider ou pas, toi, tu constates finalement qu'il y a des personnalités très distinctes qui fonctionnent bien finalement ensemble sur un projet commun à différents stades peut-être du projet.
Exactement, à différents stades du projet et puis sur différentes parties du projet aussi. Enfin voilà, il faut pas demander une fois de plus aux mêmes personnes, enfin des personnes différentes de faire la même chose. Et je pense que c'est une erreur de demander un profil I, donc un profil, c'est un peu la caricature, hein, mais c'est le profil très pushy, qui va vers l'avant, qui est un peu tout feu tout flamme et qui d'ailleurs peut se dégonfler comme une baudruche. C'est pas à cette personne-là, si tu veux, qu'il va falloir faire relire des textes pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. À l'inverse, un C, si tu lui demandes de prendre une décision rapide, efficace, il va complètement perdre ses moyens. Donc il faut mettre un petit peu d'empathie là-dedans et juste tirer les forces de chacun.
Et finalement, si la collaboration entre les membres de l'équipe ne fonctionne pas et que tu en fais le constat, quelle est ta réaction ? Est-ce que tu vas subir ou arriver maintenant, avec les années, à prendre du recul, à arriver à parler, proposer des solutions quand le constat commun est fait que la collaboration n'est pas tellement fructueuse ?
C'est très difficile quand ça arrive, et ça arrive, évidemment. Et tu vois, c'est pas parce qu'on fait du disque, qu'on essaye de faire au mieux, que ça marche toujours. Et il y a juste des personnes qui s'aiment pas, et ça ne marche pas, et parfois juste ça ne fit pas. Et je pense qu'il faut surtout pas faire l'autruche dans ce genre de cas. Très honnêtement, je suis pas la meilleure personne pour le faire. Je pense que mon mari est bien plus doué que moi là-dessus. Mon mari, c'est un coach né, je pense. Et lui, il est très très bon pour faire voir aux gens où est le problème et leur faire un peu accepter aussi, mais de manière respectueuse et assez, je dois dire, assez empathique. Mais typiquement, je pense qu'il faut pas se voiler la face, premièrement. Il faut soulever le problème, quoi. Il faut un peu soulever le tapis, voir tout ce qu'il y a en dessous et dire « Ok, là, ça ne fonctionne pas. » Qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que la bonne manière de procéder, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on responsabilise les gens. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où si c'est juste le dirigeant, le manager qui doit prendre la décision, tu vois, entre deux personnes qui ne s'entendent pas, en fait, personne n'est content. Parce qu'au final, il y en a un qui se sent lésé, il y en a un qui se sent un peu victorieux, mais ce n'est pas forcément la bonne chose non plus. Enfin, et donc, je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les collaborateurs dans ce genre de cas, dire « Ok, vous n'entendez pas, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait ?
Et donc là encore, on en revient à une décision un peu collégiale, enfin, ou une prise de décision.
En fait, le terme collégial, il est bon, mais je pense que c'est plus le terme de responsabilité qui correspond. C'est-à-dire que je pense que quand on travaille dans une entreprise, et surtout une petite, c'est un choix, si tu veux, qui est finalement assez impliquant, parce que on s'investit. Et en fait, un travail, c'est finalement un contrat de travail où il y a deux parties qui signent ce contrat de travail. Et moi, je crois pas tellement au fait que le dirigeant, en fait, doit imposer sa loi. Je pense qu'en fait, chacun, en fait, doit pouvoir contribuer. Et je pense que c'est pas uniquement le dirigeant qui est responsable, c'est aussi le collaborateur. Et le collaborateur, finalement, c'est beaucoup plus chouette dans sa vie de se dire que non seulement il a un impact, mais qu'il peut justement aider à prendre des décisions et que il n'est pas soumis, entre guillemets, au bon vouloir, tu vois, de son dirigeant. Donc je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde comme ça, même si parfois ça fait un peu peur.
Et avec les années, vous avez déjà été confronté à un conflit entre deux salariés. Comment vous êtes arrivé à le gérer finalement ?
Mal. C'était il y a longtemps. Je dirais que c'était en 2014-2015. Et donc, on a fait à l'époque ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'on a tranché. En l'occurrence, c'était un manager qui n'est plus dans l'entreprise qui avait pris cette décision et on l'avait laissé faire. Et en gros, il avait tranché pour l'une des deux personnes. Donc, le fin mot de l'histoire est simple, c'est qu'il n'y a plus aucune de ces trois personnes qui est dans l'entreprise. Alors que je pense que c'était des personnes de qualité et c'est juste que ça crée un passif, un antécédent qui fait que ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de... Une fois de plus, je n'ai pas de solution miracle là-dessus, mais je dirais que je ne suis pas sûre que la décision par le haut de dire « toi, tu as raison, toi, tu as tort » fonctionne très, très bien, parce que c'est en général plus compliqué que ça. Donc, j'ai plutôt tendance à essayer de faire en sorte que les collaborateurs, en fait, prennent vraiment la responsabilité de leur propre choix.
D'accord. Donc, la leçon que tu en tires, c'est que finalement, tu ne feras plus d'arbitrage de cette manière et que tu laisseras plus de place à la responsabilité des uns et des autres.
En l'occurrence, en plus, ce n'est même pas moi qui l'ai fait, mais
oui.
Voilà.
D'accord. Donc, cette méthode n'était pas convaincante.
Non.
Et alors, en conclusion, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le monde du travail de demain ?
C'est une vaste question. Je ne suis pas sûre d'avoir de réponse. Il est de plus en plus multiple, ça c'est évident. Quand on voit effectivement les questions de télétravail, des entreprises, si tu veux, qui évoluent énormément. Enfin, franchement, je suis quand même assez hallucinée de voir des boîtes parfois... respectables et qui sont là depuis des générations, complètement devoir changer leur positionnement avec le digital qui arrive, etc. Je trouve qu'on est dans un monde du travail qui est à la fois passionnant parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a beaucoup de responsabilités. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou employés, salariés, collaborateurs, c'est qu'en fait, vous êtes maître de votre destin en réalité. Et que je pense que c'est une erreur de vouloir se mettre dans une situation de, tu vois, d'un peu d'assujettissement. Enfin, c'est fini tout ça. Ouais. Et je pense qu'au contraire, il faut pouvoir avoir la force de caractère de se dire non, c'est moi qui choisis mon destin. Si j'aime pas ma boîte, alors je sais qu'il y a un monde du travail qui n'est pas toujours facile et qu'on a peur de perdre un emploi. Mais la réalité, c'est que sincèrement, on peut se créer son propre emploi, on peut réussir toujours à trouver des solutions. Mmh. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas dans une situation où, en réalité, ils sont réellement à risque. Enfin, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai surtout, dans ma vision, envie d'essayer de pousser les gens à être un peu plus sûrs d'eux et à se dire qu'ils sont capables, en fait, de créer leur propre destin et qu'ils ne sont pas... Voilà, que le rapport de force, en fait, c'est pas quelque chose de souhaitable pour personne. Mmh. Et que je pense pas qu'il y ait des employeurs qui aient envie d'être dans un rapport de force. Enfin, peut-être qu'avec le temps, ils ont été un peu trop, je sais pas, aigris. Et que du coup, ils deviennent méchants. Mais à la base, en fait, je pense pas qu'on fait ce métier pour ça. C'est trop difficile. Et donc, j'ai juste envie de dire aux gens, faites les choses qui vous plaisent, mais assumez-les, quoi. Assumez-les aussi. Et si vous êtes plus content, assumez-le. Si vous êtes ravi, assumez-le et dites-le et allez chercher une augmentation. Voilà, il faut assumer en fait ce qu'on veut, tout simplement.
D'accord. Eh ben, écoute, merci pour cette analyse du monde du travail et cette interview avec toi.
Merci beaucoup.
Merci, Pauline.
À bientôt.